Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour! Alors, sans plus attendre, plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui avec la Vierge Marie. L'Immaculée Conception, la sans tâche. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais parcourir avec vous et pour vous, chers auditeurs, le catéchisme de l'Église catholique qui est très très bien fait et qui nous parle, nous pose la question. Si Dieu est bon, il nous a créés avec tant d'amour, de sagesse, de bonté. Et si nous-mêmes, nous sommes naturellement bons, vous voyez, eh oui, dans notre être même. Car nous sommes l'œuvre de Dieu, et toutes les œuvres de Dieu ne sont que bonnes, que très bonnes. Comment cela se fait-il que nous soyons si mal en point? Comment cela se fait-il que nous n'échappions pas à l'expérience de la souffrance, du mal, du péché? D'où ça vient? Et saint Augustin, bien sûr, s'est posé la question. Je cherchais d'où vient le mal et je ne trouvais pas de solution. Et sa propre quête douloureuse ne trouvera d'issue que dans sa conversion au Dieu vivant. Et il est vrai que tant qu'on ne rencontre pas le Dieu vivant et vrai, tant qu'on ne rencontre pas Jésus, vrai Dieu, vrai homme, notre Sauveur, unique Sauveur, qui nous sauve du péché, de la mort, tant qu'on ne fait pas l'expérience de sa miséricorde, on a du mal un peu à être éclairé, à bien comprendre de l'intérieur ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité, qui ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère de la piété, pour reprendre des mots de saint Paul. La révélation de l'amour divin dans le Christ a manifesté à la fois l'étendue du mal et la surabondance de la grâce. Nous devons donc considérer la question de l'origine du mal, en fixant le regard de notre foi sur celui qui seul en est le vainqueur. Alors, avant que nous ne péchions, avant que nos premiers parents, nous allons le voir, ne pêchent, car vous savez que nous avons été créés dans la grâce, nous avons été créés dans l'amitié avec Dieu, nous avons été créés dans la divine volonté. Et le catéchisme nous dit, le premier homme n'a pas seulement été créé bon, mais a été constitué dans une amitié avec son Créateur, et une harmonie avec lui-même, et avec la création autour de lui, seulement dépassé par la gloire de la nouvelle création dans le Christ. Tout allait bien. L'Église, en interprétant de manière authentique le symbolisme du langage biblique à la lumière du Nouveau Testament et de la tradition, enseigne que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originelle. Cette grâce de la sainteté originelle était une participation à la vie divine. Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir, ni souffrir. N'oublions pas cela. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. Dieu ne nous a pas fait pour la mort, ni pour la souffrance. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, Enfin, l'harmonie entre le premier couple et toute la création constituait l'état appelé justice originelle. Il y avait donc dans l'homme créé dans la divine volonté, dans la grâce, avec deux dons, ce qu'on appelle deux dons préternaturels en théologie, c'est-à-dire le don d'immortalité, ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir mourir. C'est comme il n'y avait pas de péché, eh bien on aurait poursuivi nos actes et puis au soir de notre vie, nous aurions quitté l'état terrestre et nous nous serions endormis paisiblement entre les mains de notre Père du ciel pour basculer dans la vie céleste, dans le paradis céleste. Nous serions passés du paradis terrestre au paradis céleste, nous serions passés du paradis au paradis, de l'amour à l'amour, de la lumière à la lumière, de la paix à la paix, de la joie à la joie, vous voyez, du bonheur au bonheur. Il y aurait eu une étape de transformation, mais elle se serait faite d'une manière si belle et si paisible, vous voyez. Pourquoi ? Parce que nous avions, nos premiers parents, avant le péché, avaient justement cette grâce, non seulement d'intimité avec Dieu, de vivre dans la divine volonté, de participer à la vie divine, mais aussi à l'égard de la mort, ce qu'on appelle le don d'immortalité. C'est un don préternaturel. Voilà. Et nous ne devions pas souffrir. Quand Dieu crée nos premiers parents, il n'y a pas de souffrance. Il y a un don magnifique qu'on appelle le don d'intégrité, deuxième don de préternaturel, le don d'intégrité, qui est cette force qui est donnée à l'esprit humain de, j'allais dire, de dominer les zones intermédiaires et plus basses de l'être humain. Autrement dit, notre vie spirituelle d'intelligence et de volonté, dominée parfaitement avec une harmonie paisible, nos passions qui étaient là, nous sommes de même constitution qu'Adam et Ève, nous sommes de la même nature, c'est la nature humaine qui est faite d'une dimension spirituelle, d'une dimension sensible, d'une dimension instinctive, végétative. Bref, le vivant, nous sommes essentiellement le même vivant qu'Adam et Ève. Mais tout en harmonie, vous voyez, il n'y avait aucun désordre en nous-mêmes. En Adam et Ève, tout était harmonieux. Parce qu'il y avait ce don, ce qu'on appelle le don d'intégrité, qui maintenait la domination de la vie spirituelle sur le reste. Alors, je ne vais pas vous faire rêver de cette vie, bien sûr, mais cela fait partie de l'enseignement de l'Église. La vie humaine sur Terre a commencé comme ça. Et c'est la vie selon Dieu. Quand Dieu nous crée, c'est sa volonté que nous soyons, bien sûr, sans péché. Parce que nous le verrons, ce que c'est que le péché, ben, ça ne convient pas. C'est une offense faite à Dieu. Quand Dieu nous crée, il ne veut pas que nous l'offensions, bien sûr. Quel serait ce Dieu qui nous crée en disant « Vas-y, offense-moi » Non. Il nous crée avec amour, sagesse, mais avec une nature humaine dotée d'une intelligence, d'une volonté, d'une mémoire, d'une liberté pour que nous puissions le choisir, l'aimer librement. La maîtrise du monde que Dieu avait accordée à l'homme dès le début se réalisait avant tout chez l'homme lui-même, comme maîtrise de soi. L'homme était intact et ordonné dans tout son être, parce que libre de la triple concupiscence qui le soumet au plaisir des sens, à la convoitise des biens terrestres et à l'affirmation de soi contre les impératifs de la raison. Nous y reviendrons. C'est les fameuses convoitises de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Le signe de la familiarité avec Dieu, c'est que Dieu le place dans le jardin. Dans le deuxième récit du livre de la Genèse, Et oui, c'est l'Éden. Délice. Bien sûr, il y vit pour cultiver le sol et le garder, pour le transformer pour la gloire de son Dieu, avec qui il vit une amitié, une intimité. Le travail n'est pas une peine, mais la collaboration de l'homme et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création visible qui est à transformer. C'est toute cette harmonie de la justice originelle prévue pour l'homme par le dessein de Dieu qui sera perdue par le péché de nos premiers parents. Alors, ce qu'on appelle le péché originel est une vérité essentielle de notre foi. Le paragraphe 386, pardon, du catéchisme nous dit quelque chose de très beau. Le péché est présent dans l'histoire de l'homme. Il serait vain de tenter de l'ignorer ou de donner à cette obscure réalité d'autres noms. Pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu, bien sûr. Car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité de refus et d'opposition face à Dieu. Tout en continuant à peser sur la vie de l'homme et sur l'histoire. La réalité du péché, et plus particulièrement du péché des origines, ne s'éclaire qu'à la lumière de la révélation divine. Sans la connaissance qu'elle nous donne de Dieu, on ne peut clairement reconnaître le péché, et on est tenté de l'expliquer uniquement comme un défaut de croissance, comme une faiblesse psychologique. Une erreur, la conséquence nécessaire d'une structure sociale inadéquate, etc. C'est toujours frappant, et en France, quand il y a un terroriste qui fait son acte terroriste, on dit, ah ouais, il avait des failles psychologiques. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, peut-être, hein, sûrement même. Hein. Voyons, on explique tout, la violence, le mal. Comme on est dans un monde païen, on ne fait jamais référence à Dieu. Et donc, on dit, ben voilà, c'est son milieu familial, ben, il a été embrigadé, il a été dans tel milieu, il a été un milieu de propagande. Mais dans ce monde païen, personne ne parle du péché. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu. Car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité. De refus et d'opposition face à Dieu. Alors on va essayer d'expliquer ça d'une manière psychologique. Voilà, c'est une erreur, c'est une conséquence, machin. Non, 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 non. Revenons avec ce regard de l'être humain dans son rapport à Dieu. Impossible de savoir ce que c'est que véritablement une personne humaine si on la déconnecte de son lien avec son Créateur. Ah ben, si la personne humaine est déconnectée de Dieu, je veux dire, ben voilà, c'est le produit des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, du milieu, de l'atavisme, avec un caractère familial qui se transmet. Et alors? Bon, ben non. Si on ne raccorde pas l'être humain, chacun de nous, à Dieu, on ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Je répète, si on déconnecte l'être humain de son rapport à Dieu, on ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Et on va se limiter à ses dimensions physiques, physiologiques, psychologiques, spirituelles, bien sûr, culturelles, sociologiques. Mais on passera à côté de l'essentiel. Et ton lien avec Dieu alors? Oh non, 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 non. Ah, il y a grand-mère qui est à la fois chrétienne, je crois, mais moi. C'est assez impressionnant de voir à quel point la France est devenue païenne. Alors, c'est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu, nous dit le catéchisme, sur l'homme, que l'on comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux hommes créés, aux personnes créées, pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. on verra précisément ce que c'est que le péché. Mais Dieu nous crée libres, avec la liberté. Et s'il ne nous avait pas créés libres, eh bien on aurait été des marionnettes. Ben oui. Ah, c'est plus facile, hein. De temps en temps, on dit au Seigneur, mais vraiment, moi je veux être ta marionnette, parce que c'est plus simple, comme ça, tu fais de moi ce que tu veux, comme tu veux, mais surtout que je ne choisisse pas. Non, 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 il faut que tu choisisses, librement, choisis ton Dieu. Car si tu ne le choisis pas, si tu ne le mets pas en premier, si tu... Ah, tu vas choisir d'autres dieux, tu vas choisir des idoles, parce que tu as une liberté, tu as une volonté libre. Avec la progression de la révélation, est éclairée aussi la réalité du péché. Bien que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament ait abordé la douleur de la condition humaine à la lumière de l'histoire de la chute narrée dans la Genèse, il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette histoire, qui se manifeste seulement à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais bien sûr, bien sûr. Le peuple d'Israël, tant qu'il ne reconnaît pas non seulement Jésus comme Messie, mais comme sauveur du péché, et si tout être humain dans sa vie d'aujourd'hui, tant qu'il ne reconnaît pas Jésus mort et ressuscité pour lui, eh ben il ne peut pas atteindre la pleine signification ultime de sa vie, de son histoire, de ce qu'il est. Il ne comprend pas le dessein de Dieu. Il ne sait pas pourquoi il est sur terre, tout simplement. Il pense que c'est pour faire du business, que c'est pour faire plein de choses. C'est pour laisser une trace dans l'histoire, pour faire des inventions, mais magnifique. Ben, et ton lien avec Dieu, alors? Encore une fois, nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne pouvons pas nous connaître et savoir ce que nous faisons sur la terre, notre vocation, si on est déconnecté de notre lien avec notre Dieu. Et alors dans notre vie, ben voilà, on verra, mais il y a la question du mal et du péché, de la souffrance. Et nous devons, l'Église a une lumière très très belle, très puissante sur ces choses. Ben, sa lumière lui vient du mystère du Christ, justement. Sa lumière, la lumière de l'Église, que je vous donne, ce n'est pas la mienne, c'est celle de l'Église. Eh bien, elle nous vient de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut connaître le Christ comme source de la grâce pour reconnaître Adam comme source du péché. C'est très important cette phrase. Il faut connaître le Christ comme source de la grâce pour reconnaître Adam comme source du péché. C'est l'Esprit Paraclet envoyé par le Christ ressuscité qui est venu confondre le monde en matière de péché en révélant celui qui en est le Rédempteur. La doctrine du péché originel est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle qu'est Jésus, que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. L'Église qui a le sens du Christ sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Donc, si on touche à la doctrine du péché originel, on touche au mystère du Christ. Donc si vous voulez, quand on est catéchiste, on a intérêt à bien connaître quand même la doctrine, hein ? Et lorsqu'on enseigne aux enfants, aux adolescents et aux adultes, on a intérêt à être bien formé, si vous voulez, parce que c'est pas les petites histoires de pommes et de figues, hein, qu'on raconte. Hein. C'est le mystère d'iniquité qui est comme le revers de la médaille de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Le récit de la chute. Genèse 3, troisième chapitre du livre de la Genèse, utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. Ah bon, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, non, c'est un fait. Ah bon, c'est pas un langage symbolique pour nous expliquer un petit peu qu'on n'est pas tous très gentils. Non, c'est un fait qui s'est passé réellement. La révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle, librement commise par nos premiers parents. Ah ben zut, alors moi j'ai pas demandé, hein, pourquoi ils ont péché mes premiers parents? Ils nous ont foutu, ils nous ont mis dans de beaux draps quand même, hein? Bon. Alors, comment ça se fait? Eh bien, allons un petit peu du côté du livre de la Genèse, qui est quand même splendide. Nous sommes au chapitre 3. Je ne reviens pas sur l'état, encore une fois, de sainteté et de justice originelle dans lequel nos premiers parents se trouvent. Ils vont bien. Ils vont bien. Tout va bien. Ils sont gays, tout leur plaît. Mais au chapitre 3 du livre de la Genèse, le Seigneur nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le serpent, bien sûr, illustre une réalité spirituelle très importante qui fait partie de la foi catholique et qui nous dit, qui nous enseigne qu'avant la chute de nos premiers parents, il y a d'autres êtres qui ont chuté. Et ces êtres sont des anges. Car avant de créer l'être humain, Dieu a créé les anges, qui sont des pures créatures spirituelles, sans corps matériel tel que nous le connaissons, sans psychisme tel que nous le connaissons. Ils sont pur esprit, immatériel, immortel. Et alors, ils sont créés bons, parce qu'encore une fois, tout ce que Dieu crée est bon. Il est la bonté. Mais quand il crée que des êtres qui sont bons, naturellement bons, dans leur être. Mais dans leur vie, c'est une distinction essentielle entre l'être et la vie, dans leur vie d'intelligence et de volonté, qu'ils exercent librement, voilà que les anges vont vivre une épreuve qui consiste à choisir d'une manière préférentielle le Seigneur et son œuvre. Car encore une fois, les anges ne sont pas des marionnettes. S'ils ont une volonté, une intelligence, une liberté, c'est que ce ne sont pas des marionnettes. Donc, Dieu va leur mettre devant les yeux de la foi, pas de la vision béatifique encore, mais de la foi, suffisamment de connaissances pour qu'ils puissent choisir librement leur Dieu, le plan de Dieu. Et alors une partie des anges va dire oui, va choisir le Seigneur, et une partie des anges va être dans le refus, dans l'opposition, avec des conséquences éternelles, car oui, le choix des anges sera irrévocable. Un choix, une destinée. Impressionnant. Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice opposée à Dieu qui, par envie, les fait tomber dans la mort. On va le voir. L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu, appelé Satan ou diable. L'Église enseigne qu'il a été d'abord un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. L'Écriture, là je suis au paragraphe 392 du catéchisme, l'Écriture parle d'un péché de ces anges. Par exemple, la deuxième lettre de Saint Pierre, au chapitre 2, verset 4. Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. Nous trouvons un reflet de cette rébellion dans les paroles du tentateur à nos premiers parents. Vous deviendrez comme Dieu. Le diable est pécheur dès l'origine, nous dit Saint Jean. Père du mensonge, nous dit Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean. C'est le caractère irrévocable du choix des anges et non un défaut de l'infinie miséricorde de Dieu qui fait que leur péché ne peut être pardonné. Il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de remords. Les Satan et ses potes ne regrettent rien. À un moment donné, ils ne se disent pas « Zut, alors on a fait le mauvais choix ». Non. Car ils ont choisi pour toujours. Pour toujours, c'est-à-dire maintenant, en ce moment. Et ils ont eu la peine du dent, c'est-à-dire qu'ils sont en enfer. C'est-à-dire l'enfer, c'est quoi? C'est le refus actuel de l'amour de Dieu. Le refus de Dieu, pour toujours, volontairement, librement. L'Écriture atteste l'influence néfaste de celui que Jésus appelle l'homicide dès l'origine. L'homicide, bien sûr, et a même tenté de détourner Jésus de la mission reçue du Père. Rappelez-vous l'épisode de l'évangile des tentations du Christ. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. La plus grave en conséquence de ces œuvres a été la séduction mensongère qui a induit l'homme à désobéir à Dieu. La puissance de Satan n'est cependant pas infinie. Amen. Il n'est qu'une créature puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Ah, ça fait du bien d'entendre ça, hein? Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et que son action cause de graves dommages de nature spirituelle et indirectement même de nature physique pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la divine providence qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Et oui, la permission divine n'est pas une permissivité. Nous allons le voir, bien sûr, car le péché, j'allais dire, blesse le Seigneur, offense le Seigneur. Nous avons toujours sous les yeux, le crucifié, glorifié, mais crucifié. Et donc, quand on dit que c'est le mystère du Christ qui illumine le mystère du péché, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Jésus couronné d'épines. On voit un Jésus lacéré, on voit un Jésus défiguré, on voit un Jésus crucifié. Alors, on ne peut pas dire que le mal n'existe pas et on ne peut pas dire que le péché n'existe pas. Il y a un lien, encore une fois, intrinsèque entre le mystère du péché originel et le Christ, la passion du Christ. Sa mort, sa résurrection. L'existence du diable, de Satan, et son agir, eh bien, nous allons le voir, nous allons poursuivre dans la prochaine catéchèse, et nous allons voir comment le démon s'y prend. Mais je voulais, aujourd'hui, avec vous, resituer le mystère de l'iniquité dans le dessein bienveillant de Dieu initial. Le Seigneur nous a façonnés avec tant d'amour et de sagesse, et quand il crée l'humanité en la personne d'Adam et Ève, nos premiers parents, ils ont une grâce capitale, Adam et Ève, c'est-à-dire de tête, c'est-à-dire ce qu'ils vont vivre, ils vont le transmettre. Ils devaient transmettre une nature humaine sainte et immaculée. Mais nous allons voir le péché des origines, les conséquences du péché, et nous allons voir un petit peu, voilà, nous allons poursuivre notre parcours. Je vais terminer cette catéchèse d'aujourd'hui avec deux petits passages de Jésus à Louisa Picarita, parce que Jésus a beaucoup enseigné Louisa sur ses mystères, bien sûr, parce que il faut nouveau redécouvrir l'étendue du plan de Dieu sur nous, c'est quelque chose d'immense et de magnifique. Et donc Jésus, il explique et il dit à plusieurs endroits, hein, il dit notamment à un moment donné que justement Dieu a voulu mettre Adam à l'épreuve parce que, vous savez, il y a ce fameux interdit. Hein, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Voilà. C'est un commandement fait à l'homme et la femme. Voilà, en l'hébreu, si vous voulez, et Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement, c'est homme et femme. Tous les deux. Bon. C'est pourquoi j'ai voulu mettre Adam à l'épreuve, dit-il, afin de confirmer son heureux état et son droit de domination sur toutes les choses créées. Mais comme il n'a pas été fidèle dans l'épreuve, il est juste qu'il n'ait pas pu recevoir la confirmation des biens que le Créateur voulait lui accorder. De fait, c'est par l'épreuve que l'homme acquiert le sceau de fidélité qui lui donne le droit de recevoir les trésors que Dieu a établis de donner à son âme dans l'état auquel Dieu l'a appelé. On peut dire que celui qui n'a pas été mis à l'épreuve n'a aucune valeur, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni à ses propres yeux. Dieu ne peut pas faire confiance à l'homme sans l'éprouver, et l'homme lui-même ne connaît pas sa propre force. Si Adam avait réussi dans cette épreuve, toutes les générations humaines auraient été confirmées dans son état de bonheur et de royauté. Vous voyez ? Il y a donc, avant même la tentation, il y a l'épreuve. La tentation ne vient pas de Dieu, la tentation vient du démon. L'épreuve vient de Dieu. Dieu nous éprouve. Et alors, pourquoi Dieu nous éprouve ? Et alors, c'est pour nous confirmer. C'est avant qu'il veut nous, avant de nous donner, si vous voulez, des lingots d'or, il nous dit, est-ce que tu veux bien aller tailler les haies du jardin, s'il te plaît ? Un peu. On ne voit pas trop le rapport entre les deux. Mais... Et pourtant, il y en a un. C'est pour que nous puissions encore une fois le choisir, lui, de préférence. C'est pour que notre volonté humaine choisisse sa volonté à lui, la divine. Voyez. Et donc, voilà, c'est la petite distinction entre, et très 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 importante, entre la tentation qui vient du démon et l'épreuve qui vient de Dieu. C'est une épreuve d'obéissance. Voilà. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.